La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, je suis Patrick Saporito de l'église protestante baptiste de Cahors. Nous avons donc fini de parcourir les lettres aux sept églises du livre de l'Apocalypse dans la Bible. Ces lettres s'adressent aux églises de tous les temps, en tout lieu. Et vous, quelle est votre motivation si vous fréquentez une église? Le faites-vous par tradition? Ou parce qu'il y a une bonne ambiance, un beau bâtiment, on y chante des beaux cantiques? Parce qu'on y est bien ensemble? Ou bien encore pour y écouter la parole de Dieu et l'adorer lui seul? Il est important de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église? D'où vient l'Église? Et où va l'Église? Jésus a dit, dans ce même livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et le verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Fin de citation. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et oméga en est la dernière. Jésus est l'alpha et l'oméga de son Église. C'est ce que je vous propose de voir en quatre points. Premièrement, nous verrons en quoi Jésus est l'alpha de l'Église. Deuxièmement, pourquoi ces sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse concernent-elles toute l'Église? Troisièmement, nous verrons que peut-on apprendre des deux seules églises qui sont sans reproche parmi les sept de l'Apocalypse. Et quatrièmement, nous verrons que Jésus est l'oméga de l'Église. Premièrement, voyons donc en quoi Jésus est l'alpha, le commencement de l'Église. Il en est l'origine. Quand et comment l'Église a-t-elle commencé? Eh bien, il s'agit du jour de la Pentecôte, lorsque Jésus a envoyé l'Esprit-Saint promis sur les disciples rassemblés à Jérusalem, voire Actes chapitre 2. Alors l'Église, eh bien, c'est le rassemblement des chrétiens. Il y a bien des cultes en visioconférence par Internet qui sont utiles quand on ne peut pas faire autrement, comme pendant les confinements qu'on a connus dernièrement. Mais ça ne remplace pas le rassemblement physique des croyants. Parce que lorsque l'Église se réunit dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, Jésus est au milieu d'elle. On n'est pas chrétien seul. C'est bon à se rappeler dans une société de plus en plus individualiste. Pourquoi l'Église ? L'Église est le peuple que Dieu s'est acquis pour lui. Elle est la création et la propriété de Dieu et non pas celle des hommes. Elle n'est pas un club. Comment Dieu s'est-il constitué l'Église pour lui? En donnant ce qu'il avait de plus cher pour nous avoir avec lui. Son Fils unique, Jésus, mort sur la croix et ressuscité pour nous pardonner et nous sauver de nos péchés. Parce que Dieu est saint et que pour être avec lui, il nous faut être lavés de nos péchés. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin de citation. Mais le projet de Dieu va plus loin que de nous pardonner nos péchés. Quand on considère Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, le projet divin est de nous intégrer à la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour célébrer la gloire de Dieu, pas moins. Les trois personnes de la Trinité sont présentes dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. C'est Dieu le Fils, Jésus, qui les dicte, faisant mention de Dieu son Père, chacun dans l'Église étant exhorté à écouter ce que dit Dieu, le Saint-Esprit. C'est plus que gigantesque, c'est éternel. Ainsi, tous ceux qui ont cru en Jésus, le Fils de Dieu, comme leur seul Sauveur et Seigneur, sont devenus enfants de Dieu le Père et sont rentrés dans l'Église, la famille de Dieu, bénéficiant de l'amour du meilleur Père qui soit. Et tout chrétien né de nouveau a reçu le Saint-Esprit comme signe que nous appartenons à la famille de Dieu. C'est par lui que nous pouvons appeler Dieu « Papa » que traduit le mot grec « Abba ». L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 15, nous dit que nous avons reçu, je cite, « un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, fin de citation. Abba, ça veut dire papa. Aussi, en tant que chef de la famille que nous formons, Dieu le Père a le droit de nous corriger et nous avons le droit d'être corrigés par lui. Pas moins de 5 églises sur les 7 citées dans le livre de l'Apocalypse reçoivent des reproches. Mais l'autorité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est inséparable de son amour pour nous. Dieu le Père n'a pas seulement voulu faire de nous qui croyons en son Fils ses enfants, mais il a voulu faire de nous, l'Église, l'épouse de son Fils, qui a payé le prix le plus élevé en versant son sang précieux pour nous. Quelle famille plus que formidable ! Non seulement nous bénéficions de l'amour du meilleur Père qui soit, Dieu le Père, mais aussi de l'amour du meilleur conjoint qui soit, Jésus, Dieu le Fils. Jésus a non seulement toute la légitimité de corriger son Église, l'épouse qu'il s'est acquise, mais il a écrit ces 7 lettres parce qu'il nous aime. Vous autres qui êtes mariés, vous rappelez-vous votre correspondance avec votre fiancée ? Vous n'aviez pas à vous forcer à cause de votre amour pour elle, n'est-ce pas ? Jésus, en tant qu'époux de l'Église, est fidèle à 100%. Et vous, si vous êtes chrétien, chrétienne, désirez-vous lui rester fidèle ? Ou êtes-vous tenté de flirter avec le monde ou d'autres religions ? On comprend alors mieux le pourquoi de ces lettres aux églises. Voyons mon deuxième point, pourquoi ces 7 lettres nous concernent-elles tous de l'Église de Jésus-Christ ? Ces lettres nous apprennent que l'Église n'est pas organisée en une grande institution, mais plutôt en plusieurs églises locales, et Jésus prend bien soin d'écrire une lettre à chacune en particulier dans la situation qui lui est propre. Pour chacune, le message n'est pas le même, et Jésus se présente différemment comme il veut que telle église le voie. Chaque église a son propre profil, dépendant du lieu où elle se trouve, et donc de la culture ambiante dans laquelle elle baigne, et qui l'influence forcément. Par exemple, l'église de Laodicée est riche matériellement parce que la ville de Laodicée était riche, et l'église de Smyrne est dite pauvre matériellement. Aujourd'hui encore, les églises sont parfois bien différentes les unes des autres, déjà par leur taille, grande ou petite. On peut être sûr que Jésus, qui se décrit comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, Apocalypse 2, verset 18, connaît et scrute non seulement chaque église, mais chacun de ses membres en particulier. Pour les unes, Jésus leur dit qu'il connaît leurs œuvres, bonnes et mauvaises. Pour les autres, qu'il connaît leurs souffrances, comme Smyrne, ou encore leur lieu, comme à Pergame, où est le trône de Satan. Ces lettres s'adressent non seulement à des églises du 1er siècle en Asie mineure, mais 7 étant le chiffre parfait, elles s'adressent à toute église de toute époque et en tout lieu. La lettre à l'église de Laodicée du 1er siècle, qui a donné au Seigneur la nausée, dresse-t-elle aussi un tableau de l'état de l'église occidentale à notre époque ? Si cette lettre est dans la Bible, c'est que des églises ont laissé le Seigneur dehors. Le Seigneur qui essaie d'entrer dans sa propre maison, dans son assemblée qui porte son nom. Jésus a prévenu qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12. Des églises sont installées dans leur confort, leur richesse, et beaucoup de gens meurent sans avoir entendu l'évangile. Au lieu de se charger de leur croix dans un esprit de renoncement, certains chrétiens affichent leur couronne sur Facebook, ont leurs idoles, telles que le sport, le foot, Internet, télévision, ou encore soins immodérés du corps et de son image de soi. Certains sont endormis, carriéristes, amassant des trésors sur terre, aveugles sur eux-mêmes et les autres, chrétiens du dimanche, alors que le Christ revient bientôt pour le jour de ses noces avec son Église. Qui sont les destinataires de ces 7 lettres ? Eh bien, les 7 lettres s'adressent à chaque église et à chaque membre de l'église. À chaque église et à chacun dans l'église aujourd'hui de se situer donc dans ces lettres. Elles sont là aussi bien pour nous encourager à garder ce qui va que pour nous reprendre dans ce qui ne va pas, dans ce qui n'est pas biblique, et aussi pour nous éviter de reproduire les mêmes erreurs de certaines églises par prévention, pour nous garder éveillés. Chaque lettre commence par « Écrit à l'ange 2 ». Ces anges ne sont pas des êtres parfaits, mais les responsables des églises, anges voulant dire à la base messagers. Dieu passe par les responsables d'église pour parler à chacun dans son église. comme en témoignent les expressions présentes dans chacune des lettres, je cite, « que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises » et aussi « à celui qui vaincra ». La tâche du pasteur n'est pas simple. Il lui faut trouver l'équilibre entre conduire le troupeau dont il a la charge et se rappeler qu'il est une brebis parmi les autres brebis, le troupeau appartenant à Dieu. Ces lettres nous apprennent que l'Église ne sera parfaite qu'au ciel et que si quelque chose ne va pas dans l'Église, nous, chrétiens, nous sommes tous responsables, pas seulement le pasteur, parce que nous sommes tous solidaires. Nous formons un même corps, celui de Christ. Une seule personne qui persiste consciemment dans une attitude de péché dont elle ne veut pas se repentir et qui prend la Sainte Cène, le repas du Seigneur, fait du tort à toute l'Église. Mais une seule personne innocente, le Christ, qui a été puni pour nous tous, peut et veut rendre son Église pure. Et ce qui est vrai dans un sens l'est aussi dans l'autre. Si une seule personne dans l'Église va bien et persévère pour rester fidèle à la parole de Dieu, que ce soit le pasteur ou n'importe quel membre, eh bien toute l'Église en sera au bénéfice. Une seule personne qui entend ce que l'Esprit dit aux Églises peut faire bouger les choses. Et chacun aura sa récompense personnellement. Seules deux églises sur sept, Smyrne et Philadelphie, ne reçoivent aucun reproche de la part du Seigneur. Alors, nous avons à apprendre de ces deux églises. Qu'avons-nous à apprendre, mon troisième point? La première des deux églises sans reproche est une église persécutée, Smyrne. Le message adressé à l'église de Smyrne et à toute l'église persécutée est qu'il ne faut pas craindre même la mort, parce que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection et qu'il est avec tous ceux qui souffrent. Cette lettre nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie du chrétien fidèle. La deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 12, nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Fin de citation. Si vous ne voulez jamais rencontrer d'opposition, eh bien, c'est simple. Il vous suffit de manquer d'amour comme l'église d'Éphèse, ou d'être laxiste avec le péché et les fausses doctrines comme à Pergame ou à Thyatire, ou de soigner l'apparence plutôt que le cœur, comme à Sardes, ou d'être indifférent, tiède, sans conviction, comme à Laodicée, c'est-à-dire de ressembler aux églises qui reçoivent des reproches. Le Seigneur ne dit pas à cette église de Smyrne qu'il connaît ses œuvres, mais qu'il connaît sa tribulation, sa pauvreté et les calomnies qu'elle subit, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Et effectivement, quand une église est persécutée, elle ne jouit plus de la liberté pour évangéliser ou pour faire beaucoup de bonnes œuvres. Ça nous interpelle, n'est-ce pas? Que faisons-nous de la liberté dont nous jouissons dans notre pays? Quelles sont nos bonnes œuvres en tant qu'église? Nos œuvres déterminent le degré de notre foi. Jésus nous sonde et nous rétribuera chacun selon nos œuvres. En cas de persécution, lorsqu'une église ne peut plus faire de bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il lui reste? Eh bien, il lui reste sa fidélité. Ce qui importe, c'est de rester fidèle. Au vainqueur qui sera resté fidèle, Jésus promet la couronne de vie, comme pour Smyrne en Apocalypse 2, verset 10. Je cite « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Fin de citation. Mais que signifie rester fidèle et à qui? La deuxième église, qui ne reçoit aucun reproche et où il est aussi question de couronne, nous éclaire sur ce point. C'est celle de Philadelphie. Jésus dit qu'il connaît ses œuvres. Elle a gardé la parole de Dieu et n'a pas renié son nom. Apocalypse 3, verset 8. Pour rester fidèle, il nous faut garder la parole de vérité, la Bible. Et c'est elle qui nous gardera. Si tu veux être puissant, refuse le mensonge et attache-toi à la vérité. L'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité en 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Une colonne, c'est du solide. Philadelphie était une petite église locale avec peu de puissance. Et pourtant, elle est restée fidèle parce qu'attachée à la parole de Dieu qui est la vérité. Trouves-tu facile de dire toujours la vérité, avec des chrétiens aussi bien qu'avec des non-chrétiens? Il y a des mensonges subtils, déguisés, qui restent des mensonges. Par exemple, lorsqu'on n'a pas envie de répondre au téléphone et qu'on demande au conjoint ou aux enfants de dire qu'on n'est pas là. Ou alors, pour refuser une invitation, on prétexte qu'on a déjà un rendez-vous ou qu'on est malade, alors que c'est faux. Ou alors, lors d'une dispute entre conjoints et que l'un dit à l'autre « Tu dis toujours ce qu'il ne faut pas dire » ou bien « Tu ne fais jamais les choses bien ». Les toujours et les jamais sont excessifs, et on sait bien qu'ils sont faux, et qu'ils visent à accabler l'autre. Ou alors dans le monde du travail, pour justifier une charge écrasante sur les employés en prétextant « la société vise l'excellence avec ses clients ». Il y a aussi des mensonges « entre guillemets bienveillants » qui sont fréquents dans nos églises. Des mensonges qui visent à couvrir toujours les fautes de l'autre au lieu de le reprendre. Ce qui lui renvoie une fausse image de ce qu'il fait. Finalement, c'est pas si grave, alors que ça l'est. Il y a une seule justice pour tout le monde, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. J'arrête là la liste. Dire la vérité n'est pas toujours chose facile, n'est-ce pas? Soit on parle trop peu, on n'ose pas dire les choses par peur, soit on parle trop et trop durement par orgueil. Dire à quelqu'un « tu ne seras jamais une bonne cuisinière » est peut-être vrai, mais ce ne sera pas aussi bien reçu que de dire « tu n'es pas doué pour cuisiner, par contre, l'informatique, c'est vraiment ton truc ». Qu'est-ce qui manque dans le premier cas? L'amour. Parce que l'amour va de pair avec la vérité. Ce que nous dit la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 14 et 15. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Fin de citation. Rester attaché à la vérité seule ne suffit pas, parce que la vérité est inséparable du véritable amour, et l'amour est inséparable de la vérité. L'Église d'Éphèse défendait la vérité en luttant contre les fausses doctrines, contre les hérésies, mais elle avait perdu son premier amour. À l'inverse, le Seigneur connaissait l'amour présent dans l'église de Thyatire, mais lui reprochait de sacrifier la vérité en laissant faire les faux prophètes qui égaraient l'église dans la débauche par leurs fausses doctrines. Alors, toute vérité est-elle toujours bonne à dire? Eh bien, je dirais, ça dépend. Oui, certainement, si je dis la vérité à l'autre en visant son bien, et non pas pour avoir le dessus sur lui, pas pour avoir le dernier mot pour défendre ma petite personne. Alors, comment dire la vérité dans l'amour? Comment aimer sans tolérer le mensonge ni les compromis? Eh bien, c'est en allant à Jésus. Parce que Jésus est la vérité incarnée. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Jésus est appelé deux fois le véritable dans la lettre à l'église de Philadelphie, Apocalypse, chapitre 3, verset 7, et dans celle à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 14. Il est non seulement la vérité incarnée, mais aussi l'amour incarné, car il est Dieu, et Dieu est amour. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Jésus a toujours dit la vérité par amour pour nous, et ça lui a coûté la vie. Mais c'était dans son plan pour nous permettre de vivre dans la vérité et dans l'amour. Où trouver Jésus? Eh bien, on le trouve dans l'Écriture. Il est la parole de Dieu incarnée. Elle nous gardera, comme pour Philadelphie, à condition que nous voulions la garder. Même si Dieu choisit qui il veut, quand il veut, nous avons notre libre arbitre et nous sommes responsables de nos choix. Regardez Judas. Judas faisait partie des 12 apôtres et avait pourtant été choisi par Jésus, ce qui ne l'a pas empêché de trahir Jésus et d'aller se pendre ensuite. Pourquoi? Parce qu'il aimait plus l'argent que Jésus. Il était voleur, menteur pour avoir livré Jésus par un baiser, et traître. La vie chrétienne est une course d'endurance dans laquelle la victoire est possible pour chacun d'entre nous chrétiens en demeurant fidèle jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Jésus est non seulement l'alpha de l'Église, il est aussi l'oméga de l'Église. Voyons mon quatrième point, Jésus, l'oméga de l'Église. Pourquoi est-ce possible de demeurer fidèle? Parce que Jésus a obtenu la victoire sur tout ce qui nous séparait de Dieu, à savoir notre péché. Si nous restons en communion avec le vainqueur, nous vaincrons aussi. Et surtout parce que Jésus est et restera fidèle à l'Église jusqu'au bout, parce qu'elle est son épouse et lui son époux, et ce malgré les infidélités de l'Église, parfois. Mais si tu aimes ton conjoint, tu n'as pas envie de lui être infidèle, n'est-ce pas? C'est parce que Jésus est fidèle que nous pouvons être sûrs qu'il nous amènera jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'état de la Maria en blanc qu'il veut pour lui, mariée qui sera parfaite, belle. Chacune des 7 lettres aux églises se termine par une récompense individuelle promise au vainqueur avec l'expression « à celui qui vaincra ». Voir Apocalypse, chapitre 2, versets 7, 11, 17, 26, chapitre 3, versets 5, 12 et 21. Alors repassons en revue toutes ces récompenses. Au vainqueur, Jésus promet de manger de l'arbre de vie dans le paradis, c'est la vie éternelle en Jésus. Apocalypse 2, verset 7. Au vainqueur, Jésus promet la couronne de vie à ceux qui auront enduré la persécution. Ils régneront sur ceux qui auront voulu régner sur eux. Apocalypse 2, versets 10 et 11 et verset 26. Et ils s'assieront avec Jésus sur son trône pour régner avec lui. Apocalypse 3, 21. Ce règne que le diable a toujours voulu voler au Seigneur, eh bien le Seigneur l'offre gratuitement à celui et celle qui se soumettent à sa volonté. Quelle grâce! Au vainqueur, Jésus promet la manne cachée, cette nourriture céleste, symbole de la communion totale et intime avec Jésus. Il portera le nom de l'époux et recevra un caillou blanc, symbole de la victoire, avec un nom nouveau écrit dessus. Au vainqueur, Jésus promet l'étoile du matin, qui est la gloire de Jésus lui-même. Apocalypse chapitre 2, verset 28. Au vainqueur, Jésus promet de marcher avec lui en vêtements blancs, qui représente la justice de Jésus. Chapitre 3, verset 5. Et enfin, Jésus promet aux croyants vainqueurs de faire de lui une colonne dans le sanctuaire de Dieu pour être éternellement en sa présence. Apocalypse 3, verset 12. Le Seigneur Jésus est déjà venu. Il est l'alpha, le commencement de l'Église. Et c'est encore lui qui intervient personnellement dans la vie de chaque Église en promettant de venir lui-même, soit pour réprimander l'Église, soit pour l'encourager. Et c'est encore lui qui viendra personnellement offrir la récompense à chacun de l'Église qui lui sera resté fidèle par ses œuvres et ses paroles. Cette récompense suprême, eh bien c'est lui-même, c'est sa personne. Jésus est non seulement l'alpha, mais l'oméga de l'Église. Voulez-vous faire partie de cette foule que Jésus récompensera? Mais avant de chercher la récompense, l'héritage du chrétien, faites-vous partie de la famille de Dieu. Entendons-nous bien, avant la récompense, il y a le cadeau gratuit, immérité de la vie éternelle que Dieu offre à tout un chacun qui se repent de ses péchés et croit que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est en croyant au Fils de Dieu qu'on rentre dans la famille de Dieu le Père. L'Église. Encore une fois, entendons-nous bien, le salut ne se trouve pas dans telle ou telle Église, de telle ou telle dénomination, mais seule la foi dans le sang de Jésus-Christ versé pour nous, nous purifie de tout péché et nous donne la vie éternelle.
Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et 13.
Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre, à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier.